Ce 9 août, nous fêtons Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, carmélite, donc, qui est morte dans un camp de concentration. Elle est fêtée comme martyre et vierge. Et je ne vais pas beaucoup parler d'elle parce que on peut trouver beaucoup de choses sur dans divers livrets, éventuellement sur Internet. Voilà, on peut trouver beaucoup de choses sur sa vie. Je vais plutôt m'attarder un peu sur les lectures avec deux aspects. Tout d'abord, donc, on lit le livre d'Osée aujourd'hui pour cette fête. Et c'est intéressant de noter que ce qui va se passer d'important chez Osée se passe au désert. Et qu'est-ce qui va se passer au désert? Eh bien, trois fois Dieu lui dit « Je ferai de toi mon épouse ». Et lui, c'est le peuple d'Israël. Alors, c'est important parce que, très brièvement, c'est peut-être au moment où il ne se passe plus rien, où on n'entend plus rien, que quelque chose va se jouer. Je veux dire par là que nous avons tendance à penser que quand la prière est difficile, quand nous n'entendons pas la réponse de Dieu, quand nous perdons le goût spirituel, quelque chose un peu de l'ordre de l'acédie, nous avons tendance à remettre en cause Dieu. Enfin voilà. Et si en fait, c'était le signal que Dieu frappe à la porte. C'est une question d'interprétation. Hein. Et si en fait ça voulait dire attends, là il se passe trop de choses compliquées pour que ça ne veuille pas dire quelque chose. Au lieu de rester immédiatement dans le ressenti, dans la désolation. Bon, alors, je ne dis pas que c'est drôle, hein, mais il y a une interprétation. Et si quand c'est dur, c'était Dieu qui frappe à la porte pour nous conduire au désert, et pas pour nous conduire au désert simplement, hein, mais parce qu'il y a derrière quelque chose de l'ordre des épousailles. Alors justement, c'est une question, hein, dans l'évangile, il est question de d'épousailles aussi. Alors ce texte des 10 vierges est quand même absolument génial, quoi. Il faut savoir peut-être en amont que chez les Hébreux, quand il y a un mariage, la fiancée sort accompagnée d'au moins 10 jeunes filles qui lui font cortège. Chacune de ces jeunes filles devait avoir une lampe et une couronne composée de 10 pièces d'argent. C'est pas le sujet, mais ça éclaire la parabole de la pièce qu'on a retrouvée. J'avais 10 pièces, j'en ai perdu une, donc je ne peux pas être dans le cortège, etc. etc., etc. Bon, digression que je referme, c'est pas le sujet. Donc voilà. Et puis alors, il y a cette histoire d'huile là, qu'on ne peut pas prêter. Ce qui est quand même pas très sympa. Puis un marchand d'huile qui est ouvert la nuit. Et puis en plus, elles vont acheter la nuit. Enfin, c'est extraordinaire. Cette parabole, elle est totalement anachronique, quoi. C'est pas les Américains qui ont inventé le supermarché ouvert la nuit. Hein. Jésus y avait déjà pensé. Donc voilà, c'est un peu curieux quand même cette affaire-là. Et il semble que toute cette histoire tourne autour d'un problème d'huile, si je puis dire. Alors que la finale est veillée, car vous ne savez pas l'heure. Bon, franchement, le rapport avec l'huile. Si vous avez trouvé, vous m'expliquerez. C'est un peu curieux. Et donc, quand c'est curieux, c'est qu'il faut un peu réfléchir. Donc, il est question d'un mariage. Un mariage, c'est une union entre deux vies. Et ce mariage est attendu, il est joyeux. Enfin, un mariage, c'est un moment de joie, c'est un moment extraordinaire. On prépare, on fait tout ce qu'on peut, on met les petits plats dans les grands. Etc. Enfin, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus beau possible. Sauf que, il manque un personnage, c'est qu'il n'y a pas de marié. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais les jeunes filles ne sont pas des fiancées. Donc il n'y a pas de mariée. Elle est où? Il n'y a pas de mariée. Et il y a un marié qui se fait attendre. Donc c'est un peu curieux tout ça. Et donc ces 10 jeunes filles qui sont sages, certaines sont sages, avisées, dit le terme grec, ou bien folles, et j'aime bien folle moi, ou fatouée, je vais en parler tout à l'heure. Le terme latin est intéressant, parce qu'il y a une folie hein, derrière. Et elle est intéressant de voir que tout le monde pionce, hein. Tout le monde s'est endormi. Il n'y a pas celles qui sont avisées, qui ont moins dormi qu'avec un seul œil. Non, tout le monde s'est endormi. Hein. C'est intéressant. Et puis, on apprend qu'il y a des éléments indispensables dans ce cortège. Elles ont toutes une lampe à huile. Remarquez bien qu'il n'y en a pas qui aient oublié leur lampe. Et il est possible aussi qu'elles aient toutes de l'huile en réserve. En fait, il ne nous est pas dit que les vierges folles n'aient pas de réserve. Il est juste dit qu'elles ne les ont pas prises avec elles. Peut-être elles avaient des réserves, mais elles ne les ont pas prises. On ne sait pas. Et puis il y a un cri en plein milieu de la nuit. Donc tout le monde se réveille. Et remarquez que les lampes sont restées allumées, puisqu'on nous dit qu'elles étaient en train de s'éteindre. Donc même si les vierges se sont endormies, pas les lampes. Les lampes ne se sont pas éteintes. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Alors, on va faire bref parce que sinon on va y passer très très longtemps, mais parlons un peu de l'huile. L'huile, ça n'existe pas à l'état naturel dans la nature. C'est un produit transformé, l'huile. Et cette huile provient précisément d'une transformation et donc d'un travail, et c'est là qu'intervient notre responsabilité. Nous avons la responsabilité de produire cette huile. Mais pas seulement produire de l'huile. Vous vous souvenez peut-être du passage de Saint-Luc au sujet de cet homme qui a fait des récoltes pantagruéliques et qui dit à son âme, vas-y, mange, bois, fais la fête, jouis de l'existence. Et Dieu lui dit, mon ami, tu es fou, cette nuit on te redemande ton âme et ce que tu as, qui l'aura? Qui le sait? Et donc il y a cette histoire de folie, quoi. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir de l'huile, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais il s'agit de ne pas mener une vie insipide. Fatuae, en latin, les vierges folles, c'est les verbes insipides. Insipide, ça s'oppose à la sagesse, sapere. C'est les vierges qui ne sont pas sages, qui n'ont pas de discernement. Donc, c'est quoi la sagesse? C'est le goût de Dieu, de goûter Dieu. Veiller. Veiller, ça n'est rien d'autre que de demeurer en relation avec Dieu. Et on peut s'endormir, c'est même dans l'Écriture, hein. Je dors mais mon cœur veille. Donc, en fait, ce que Jésus essaie de nous enseigner, c'est que c'est pas grave de dormir. Mais ce qui est grave, c'est de ne pas mettre Dieu au-dessus. Se préoccuper de Dieu, ça veut dire s'occuper à l'avance de Dieu. Sinon, nous menons une vie horizontale qui se finit à l'horizontale. C'est extrêmement clair et simple. Donc voilà, commentaire un peu large de ces vierges qui viennent en cortège. Donc l'époux figure le Christ. Et la fiancée absente, c'est évidemment l'Église. L'Église qui se fait attendre parce que c'est pas encore la fin des temps et tout le monde n'est pas là. Alors c'est l'Église en tant qu'épouse, mais l'Église en tant que corps. Et le corps de l'Église n'est pas encore complet. Il y a ceux qui ne sont pas encore nés, ceux qui ne sont pas encore martyrs et qui le seront. Donc le corps de l'Église n'est pas encore achevé. Donc la fiancée ne peut pas encore être là. Et donc, quand on fait cortège avec la fiancée, ben c'est un peu nous. C'est aussi ce corps, parce que une image c'est toujours limité, hein, donc ça part un peu dans tous les sens. Eh bien voilà, qu'est-ce que nous avons comme huile? Qu'est-ce que nous proposons comme huile? Est-ce que nous avons des réserves que nous utilisons? où est-ce que nos réserves, nous en profitons pour faire la bringue et laisser tomber, puis on va voir le bon Dieu le dimanche, quoi. Une heure par semaine, faut pas exagérer, hein, on va quand même pas non plus. Ouais, voilà. Est-ce que c'est pas un peu ça, ces vierges infatuées? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la sagesse, le goût, la sapitude, si je peux faire un néologisme, de Dieu, quoi, c'est ça, en fait. Tout en revenant à cette lecture dosée. Ouais, mais il est drôle, lui, mais c'est pas drôle. Ouais, dans le désert, ouais, peut-être c'est Jésus qui frappe à la porte. Au moins, essayer d'envisager que le silence de Dieu, c'est quand Dieu parle. Ou va parler. Vous savez, avant les choses très importantes, les cataclysmes, il y a souvent un silence étonnant. Et tout à coup, paf, ça tombe. Et bien là, c'est pareil. Un silence de Dieu prépare peut-être une parole de Jésus. Seulement, nous sommes tellement en train de gigoter dans tous les sens qu'on ne l'entend pas. Bon, c'est une hypothèse, hein, et je ne suis pas en train de minimiser les gens qui sont dans des grandes souffrances. Bon, est-ce que d'être dans une grande souffrance peut laisser Dieu indifférent? Non. Et est-ce que Dieu peut nous proposer de nous dire, écoute, je sais que tu souffres terriblement, tu n'as pas idée de la peine que ça me fait, je t'ai sauvé de la mort éternelle, mais je ne peux pas te sauver de cette souffrance. Parce que cette souffrance, tu peux en faire quelque chose en union avec moi. Bon, attention, hein, tout le monde ne peut pas entendre ça. Et quand on a un cancer des os, que sais-je, oui, bah, c'est gentil, ces paroles lénifiantes, mais c'est l'autre qui subit, hein. Donc, faut être très attentif à ça. Mais en tout cas, pour soi-même, c'est pas pour le dire aux autres, mais pour soi-même, on peut se dire, bon. Et si l'épreuve que je traverse était une occasion de quelque chose, une occasion possible, pas nécessaire. Mais voilà, bon, c'est un point d'interrogation. En tout cas, n'ayons pas peur de ces déserts où Dieu nous conduit, car s'il le fait, c'est qu'il a une considération inouïe pour nous, et que c'est pas pour nous punir, mais pour nous unir, et encore une fois, que nous connaissions Dieu. Amen.